Bonjour, aujourd'hui le destin extraordinaire d'une reine de France puis d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine.
Ma bonne fortune fut d'aimer des femmes dotées de terres importantes. Quand j'épousais Éléonore, je me dis quelle chance est la mienne, la femme la plus riche du monde. Elle possède l'Aquitaine, la plus vaste province du continent, et elle est belle par-dessus le marché.
Mille ans d'histoire. Mariée à deux des plus puissants rois de son temps, deux fois reine et mère de deux rois, Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre, Aliénor d'Aquitaine est une des figures les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Femme de pouvoir et de culture, symbole de l'amour courtois qui inspira les personnages d'Iseux, de Guenièvre et de Mélusine, elle a régné jusqu'à 82 ans sur un empire oublié, l'empire éphémère des Plantagenets, fondé par le deuxième mari d'Aliénor d'Aquitaine, le roi d'Angleterre, Henri II.
Ma vie sera plus belle une fois écrite qu'elle ne le fut pendant que je la vécus. Henri Fitz-Empress, premier roi Plantagenet, couronné à 20 ans, le guerrier le plus vaillant d'une vaillante époque. Il sut mener ses gens, défendre la justice et régner durant 30 ans sur un empire aussi grand que celui de Charlemagne. Il épousa par amour une femme sortie de la légende. Ni Alexandrie, ni Rome, ni la Perse n'ont jamais connu une telle reine.
Martin Aurel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers, qui a été une ville où a régné, nous le verrons, Aliénor d'Aquitaine, une des capitales de cet empire des Plantagenets, sur lequel donc elle a régné avec son mari Henri II d'Angleterre, un empire d'ailleurs dont auquel vous avez consacré, vous venez de consacrer un livre publié chez Perrin. C'était quelque chose d'énorme, on n'en parle plus beaucoup de cet empire parce qu'il n'a pas duré très longtemps, l'empire des Plantagenets, mais c'était quelque chose de considérable, beaucoup plus grand même que le royaume de France à l'époque.
Effectivement, il concernait une sorte d'arc atlantique qui s'étendait des Pyrénées jusqu'au mur d'Adrien, la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, et puis vers l'Auvergne y compris, et une partie de l'Irlande, puisque la conquête de l'Irlande par l'Angleterre commence précisément sous le règne d'Henri II Plantagenet, le mari d'Aliénor d'Aquitaine.
Au XIIe siècle. Alors cet empire, s'il était grand, c'est-à-dire que ça ne s'appelait pas un empire, c'était en principe un royaume, hein, c'était le royaume d'Angleterre en fait.
C'est le royaume d'Angleterre, puis toute une série de principautés territoriales, les ancêtres de nos régions actuelle, qui, par le jeu des alliances, c'est-à-dire du mariage, de l'héritage, de la conquête militaire, ont abouti entre les mains d'Henri II Plantagenet et de son épouse Aliénor. Aliénor, bien sûr, c'était la plus belle héritière, pas seulement au physique, mais surtout au matériel du XIIe siècle, puisqu'elle a apporté à ses maris l'Aquitaine.
Qui était considérable, c'était presque tout le sud-ouest de la France.
Absolument, à partir du sud de la Loire, donc le Poitou, le Limousin, l'Auvergne, la Marche d'Angoulême et puis la Gascogne.
Alors avant d'être reine d'Angleterre, d'apporter à Henri II l'Aquitaine, Aliénor a été d'abord reine de France. Cette Aquitaine, c'est d'abord au roi de France, Louis VII, qu'elle l'apporte en l'épousant très jeune. Elle avait, je crois, à peine 15 ans quand elle se marie avec lui à Bordeaux en 1137.
Voilà, 15 ans. Louis VII, avait à peine aussi 16 ans, le même âge, voilà 16 ans. Et elle est devenue très jeune orpheline. Et tout logiquement, le seigneur de son père, Louis VI, a pris en main son mariage et elle a donné cette fille à son fils, donc à Louis VII. Alors ce qui est très intéressant du point de vue du mariage, c'est que les écrivains qui ont parlé de ce mariage ont parlé d'un amour conjugal véhément. Vehementer, c'est l'adverbe latin qu'ils emploient. Et ça les surprend. Ça les surprend parce que ces écrivains participent de la civilisation du XIIe siècle, de la redécouverte de l'Antiquité classique. Ils sont vraiment imprégnés de Cicéron, de Sénèque. Sénèque qui disait « Quand tu embrasses ta mère, souviens-toi, tu es mortel. » Donc il ne faut pas se laisser par la passion. Il faut être stoïcien. Il faut tenir ses sentiments. Or voici que tout à coup, au lieu d'un mariage de raison, on voit paraître un mariage d'amour.
Alors, elle est reine de France, Martin Aurel d'abord, Aliénor d'Aquitaine. Et puis, alors, c'est pas une potiche, hein, ou comme l'étaient beaucoup de reines de l'époque, un ventre destiné à procréer des rois. Elle a été, auprès de Louis VII, auprès du roi de France, une femme de pouvoir.
Oui, il y a des fortes chances que ce soit le cas. Ne serait-ce que par deux événements. D'abord, la conquête de Toulouse, ou la campagne qui a été menée sans succès par Louis VII, qui s'inscrit dans la tradition. Voilà, c'est
des possessions.
Tout Bordelais regarde du côté de Toulouse. Donc, c'était la tradition des Gascons. Et il y a eu aussi toute une affaire où Aliénor a essayé de marier sa sœur Pétronie au connétable de son mari, ce qui a dû provoquer un divorce, donc une grande guerre qui a abouti à un désastre. C'est une église qui a été brûlée avec tous les habitants dedans, le village de Vitry le brûlé. Et Louis VII éprouve à partir de ce moment-là, puisqu'il est responsable de cet acte, il a envie d'expier, de se faire pardonner par l'église ce péché.
Et puis surtout, Martin Aurel, elle participe à la croisade de son mari en 1147. Elle part en Terre Sainte. Là, elle va être éblouie par la magnificence de la cour de Constantinople, hein, et puis aussi par des hommes. Hein, c'est là où elle commence à faire quelques coups de canif dans le contrat de mariage avec le roi de France. Elle découvre des hommes, ou elle aurait découvert des hommes, et même plus que découvert. Il y avait l'oncle du roi de France lui-même. Plus tard, on dit même que, bien avant de se marier avec lui, elle avait commencé à éprouver des sentiments assez forts pour son futur mari Henri II.
Oui, alors tout cela, il faut le prendre avec des pincettes, vous savez, parce que les auteurs qui écrivent le plus près de ces événements, en particulier Jean de Salisbury, qui est à la cour d'Angleterre, qui est un très grand savant, un homme très pondéré, il ne parle jamais de passage à l'acte, si vous voulez. C'est plutôt un petit marivaudage, disons, entre Aliénor et son oncle Raoul de Faye, qui était prince d'Antioche. En fait, il y avait aussi derrière un gros accrochage entre, d'une part, Louis VII et Raoul de Faye, pour savoir s'il fallait, oui ou non, attaquer Jérusalem ou partir à Jérusalem ou à Dès. Donc il y a un problème militaire derrière. Si vous voulez mon opinion, Aliénor n'a pas pu commettre l'adultère alors qu'elle avait épousé Louis VII pour des raisons des sources. Donc sa légende noire commence vers 1180. C'est Guillaume, archevêque de Tyr, en Terre Sainte, qui l'accuse de l'adultère. Mais après, ça va devenir un délire. Enfin, on l'accuse même d'avoir couché avec Saladin, qui avait, à l'époque où elle était en Terre Sainte, 6 ou 7 ans. Donc, c'est tout à fait absurde.
En tout cas, il faut dire qu'elle était très belle, hein, Martin Aurel, d'après ce que tout le monde en disait. Et alors, peut-être trop belle au goût de son mari, Louis VII, qui, après 15 ans de vie commune, décide donc de se séparer d'Aliénor d'Aquitaine. Une décision commentée par les contemporains d'Aliénor d'Aquitaine, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, dans les textes du Moyen-Âge, hein, vous l'avez dit, Martin Aurel, surtout quand ces textes sont écrits par des moines, Aliénor d'Aquitaine a mauvaise réputation, une réputation de séductrice. D'abord, elle est belle. En voilà, au moment de son mariage avec Louis VII, ce qu'écrit le moine Guillaume de Newburgh. Le roi brûlait d'un amour ardent pour la jouvencelle, mais son désir fut emprisonné dans un étroit filet. Rien d'étonnant, tant étaient vifs les charmes corporels dont Aliénor était gratifiée. Elle est belle, hein, mais elle n'est pas très fidèle, on l'a dit. Un exemple, donc, pendant la croisade, elle tombe amoureuse du roi d'Antioche, donc toujours selon la légende. Et lorsqu'elle décide de rester avec son amant et donc de laisser en plan son mari, un des conseillers du roi l'aurait adjuré de ne pas la laisser faire. « Quel opprobre, dit-il, pour le royaume de France si l'on apprenait que le roi s'était laissé prendre sa femme ou qu'elle l'avait quittée. » Sa réputation est telle que Guillaume de Newburgh écrit d'Aliénor: elle comptait parmi les folles femmes de conduite imprudente. Elle se moqua contre la dignité royale de la loi du mariage et ne respecta pas le lit conjugal. Une conduite qui, pour le moine Aubry des Trois Fontaines, joli nom, eh bien cette conduite pour lui explique le divorce. Louis, dit-il, l'avait laissée à cause de l'incontinence de cette femme qui ne se conduisait pas comme une reine, mais bien plutôt comme une putain. Le terme est fort, hein.
Ouais, oui.
Un autre auteur, le Ménestrel de Reims, raconte comment Louis VII décida du divorce sur le conseil de ses barons. « Par notre foi, lui dirent-ils, le meilleur conseil que nous vous donnons, c'est que vous la laissiez aller, car c'est un diable, et si vous la gardez plus longtemps, nous croyons qu'elle vous fera mourir. Et par-dessus tout, vous n'avez pas d'enfant d'elle. » Alors, pas d'enfant, ça veut bien dire, évidemment, pas de fils, hein, c'est clair. à l'époque. Alors, ce qui est amusant, c'est que le roman de Renard, à la fin du XIIe siècle, qui met en scène des animaux, hein, s'inspirera largement des déboires conjugaux d'Aliénor et de Louis VII, et en fera des gorges chaudes, bien sûr. Alors, l'historien Georges Duby assure, en effet, que pour les lecteurs du Moyen-Âge, il est clair que derrière le loup Isengrin, roulant des mécaniques et un peu bêta, hein, faut le dire, se cacherait le roi Louis VII, le mari si jaloux qu'il croyait tous les jours être cocu. Et cocu, Isengrin l'est bien, puisque Hersant, sa femme, qui ressemble étrangement à Aliénor, Hersant fréquente assidûment Renard, qui est, dit le roman, grand fornicateur, et fait très suavement la chose. La pute Hersant, selon le terme du roman de Renard, Hersant décide d'ailleurs d'abandonner Isengrin, car, dit-elle, puisqu'il ne peut la chose faire, qu'ai-je donc à faire de lui ?
C'était terrible la réputation d'Aliénor d'Aquitaine, hein, Martin Aurel.
Oui, cela dit, bon, j'ai une grande admiration pour Georges Duby, qui m'a formé, qui est mon maître vénéré, dont j'admire le style et la façon d'écrire. Mais là, je dois m'inscrire en faux, puisque il faut savoir aussi que nous avons affaire à des textes, comme vous l'avez indiqué, de moines. Et quand on écrit l'histoire au XIIe siècle, on ne l'écrit pas du tout comme nous. Ce qu'on essaie, c'est de faire passer un message exemplaire. Or, quelle est l'idée ? Mariage consanguin, ce sont des cousins.
Oui, ça c'est extraordinaire, parce que c'est ce qu'a invoqué Louis VII, il a dit, mariage consanguin, on fait donc annuler. Il se rend compte que c'est un mariage consanguin quand même après 15 ans de mariage.
Oui, oui, tout à fait, c'est piégé. On s'est joué dans l'aristocratie avec les interdits de parenté pour le moment venu se séparer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée qu'il y a derrière ces textes, c'est qu'il ne faut pas épouser une cousine, sinon ça va être désastreux. Elle va vous tromper, il y aura beaucoup de problèmes.
En tout cas, la décision est prise. Louis VII obtient l'annulation de son mariage avec Aliénor d'Aquitaine. Une décision catastrophique pour le royaume de France et une aubaine, bien sûr, pour le futur roi d'Angleterre, Henri II, avec lequel Aliénor se marie 2 mois à peine après sa séparation d'avec Louis VII en 1152.
Henri avait 18 ans quand je l'ai connu et j'étais reine de France. Il arrivait à Paris venant des brumes du Nord avec l'intelligence d'Aristote et la beauté du péché mortel. Nous avons violé les commandements dès l'abord. Je fis annuler mon union avec Louis et plus tard, au printemps, non loin d'ici, nous nous sommes mariés. Le jeune comte Henri et sa comtesse. Mais il a suffi de 3 années pour que je redevienne reine et qu'il devienne roi d'Angleterre. Couronné à 21 ans.
L'on dit comme ces douces choses, mais je n'en connais la douceur. Toute joie, mon étant close, laisse le sabine bien d'amour. Lasse mes bonnes sirecoses, si mon
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Aliénor d'Aquitaine.
Et c'était l'ensemble Symphonie. On dit que l'amour est douce chose, une chanson de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, dont on dit beaucoup, Martin Aurel, que c'était aussi une femme de culture. Et elle faisait l'admiration des troubadours, c'est même elle qui aurait lancé en quelque sorte ou inspiré ce qu'on appelle l'amour courtois.
Oui, c'est surtout son grand-père, Guillaume IX d'Aquitaine. Curieusement, elle a connu son grand-père. C'est très rare au Moyen-Âge qu'on ait la chance, en raison de l'espérance de vie, de faire la connaissance de son grand-père. Et le premier troubadour connu, c'est-à-dire le premier poète en Languedoc, langue du sud de la France, qui exprime ses sentiments amoureux en vers, la lyrique occitane, eh bien, c'est son grand-père. On conserve une dizaine de poèmes de lui. Donc, elle a grandi dans cette cour de Poitiers, où on fréquentait aussi beaucoup de troubadours, Marcabru, Cercamon, ce sont des jongleurs. Marcabru, c'est le fils de la brune, le fils peut-être d'une courtisane. Cercamon, c'est celui qui cherche le monde, qui parcourt le monde. Donc ces jongleurs, elle les a fréquentés pendant son enfance. Et puis aussi, elle a, malheureusement, on ne conserve aucun de ses poèmes à elle, mais elle a transmis aussi ce savoir-faire d'écriture de poèmes auprès de Richard Cœur de Lion, dont on conserve plusieurs chansons.
Son fils, oui.
Voilà, son fils Richard. Donc il y a cet aspect, puis aussi il y a le lien avec la légende arthurienne, puisqu'on a des témoignages comme quoi elle arrive très tôt dans le Midi, en particulier par la poésie de deux jongleurs que je viens de citer. Et vous savez qu'Aliénor a toujours été mise en relation avec le personnage assez trouble aussi de Guenièvre, l'épouse d'Arthur.
Alors, Martin Aurel, vous avez dit à Poitiers, c'est vrai qu'elle avait une cour extraordinaire, très raffinée à Poitiers. Que faisait une reine d'Angleterre, puisqu'elle devenait, elle était devenue reine d'Angleterre par son mariage avec Henri II, qui d'ailleurs lui-même était français. D'ailleurs, tout le monde parlait français dans cette cour d'Angleterre.
Absolument.
Et que faisait-elle à Poitiers?
Alors, à Poitiers, elle avait la responsabilité du duché d'Aquitaine, puisque, comme vous l'avez dit au début, l'Empire Plantagenet était très vaste. Or, nous sommes à une époque où les moyens de pouvoir sont tellement limités qu'il faut manifester physiquement sa présence auprès de l'aristocratie, auprès de ses sujets. Il faut chevaucher, il faut parcourir le terrain, il faut être partout. Et Henri II ne pouvait pas être au four et au moulin, donc il a délégué tout naturellement à sa femme le duché d'Aquitaine. Elle était d'ailleurs duchesse d'Aquitaine elle-même. Alors, c'est très intéressant du point de vue du temps qu'elle a pu consacrer ou pas consacrer du tout à ses enfants. Aliénor a eu 2 filles du premier mariage, 8 du deuxième mariage, dont beaucoup de garçons.
Mais il n'y avait pas de garçons avec Louis VII, mais là, voilà. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu 5, dont 3 se sont chamaillés, beaucoup, on le verra. Alors, c'est le grand amour avec Henri II, hein, là encore, un mariage d'amour, l'amour courtois, enfin courtois plus ou moins, pas pour Henri II, parce qu'elle découvre vite que c'est son mari, cette fois-ci, qui est, il faut le rappeler, qui a 10 ans de moins qu'elle, hein, Henri II. C'est son mari qui la trompe, et notamment avec une certaine Rosemonde, et on dit que c'est ça qui va faire tout basculer, qui va faire de la cour d'Angleterre ou de la cour des Plantagenets vraiment une scène shakespearienne. Rosemonde, c'était une des nombreuses maîtresses, mais la plus importante, je crois, de Henri II.
Oui, Rosemonde de Clifford, la fille d'un guerrier normand de la frontière du pays de Galles. Cela dit, là encore, il est très difficile pour nous de déceler la part du psychologique, du sentiment, dans le rejet, dans la révolte des enfants d'Aliénor et d'Aliénor elle-même en 1173 contre Henri II. À mon avis, il vaut mieux regarder du côté de l'Empire Plantagenet. Oui. Nous avons affaire à des principautés territoriales, l'Aquitaine avec l'Anjou, qui traditionnellement se sont combattues, se sont fait la guerre. Et il y a aussi une envie de ces garçons, en tant que jeunes, un jeune au Moyen-Âge, dans l'aristocratie, c'est un célibataire qui n'a pas été casé, qui n'a pas de patrimoine. Il y a pour eux une volonté de s'affirmer en tant que duc ou comte, vicomte d'un territoire. Mmh. Et ça joue peut-être beaucoup plus dans la révolte que des problèmes affectifs. Après tout, Aliénor savait qu'elle appartenait à une famille où on pratiquait la bigamie systématiquement, la famille des ducs de Normandie. Enfin, c'était son mari qui descendait.
Duc de Normandie aussi, hein, c'était la Normandie, faisait voilà. Également partie de...
Et la Bretagne aussi, ouais. Plus tard.
Ils avaient vraiment tout, hein, Aliénor et son mari, et puis alors leurs enfants. Mais alors justement, cette trahison, en tout cas, en beaucoup d'historiens, cette trahison de Henri II avec sa maîtresse Rosemonde, beaucoup d'historiens disent que c'est ce qui a poussé vraiment Aliénor d'Aquitaine à vouloir se venger en dressant les enfants d'Henri II contre leur propre père.
Vos fils sont une partie de vous.
Comme des verrues et des goîtres, et je vais me les faire extraire.
Nous les avons fait. Ce sont nos enfants.
Je le sais, ce sont nos enfants. Regardez-les bien. Geoffroy, c'est une manière de chef-d'œuvre. Il n'est pas en chair, c'est une machine avec des pignons et des rouages. Et Jean, est-ce vous qui lui avez dicté sa dernière trahison? Non, ce n'est pas un enfant. Il est seulement l'homme que nous avons fait de lui.
N'essayez pas de partager Jean avec moi. Il est votre œuvre, pas la mienne.
Et Richard est la vôtre. Comment avez-vous pu l'envoyer traiter avec Philippe ?
Alors c'était un extrait du très beau film d'Anthony Harvey, Un lion en hiver, Aliénor, qui est joué dans ce film par Catherine Hepburn, qui est formidable, la distribution est formidable. Le roi Henri II, c'est Peter O'Toole. Enfin, et alors, il y a les enfants dont il parle. Hein. Il y en a 3 sur les 5, parce qu'il y en a un qui est mort en bas âge, et puis un autre aussi. Et puis alors, il y a surtout 3 enfants qui vont se chamailler pour obtenir la couronne de leur père avant même qu'il ne soit mort. On a entendu leur nom. Il y a Geoffroy de Bretagne, qui mourra avant son père, mais il y a aussi et surtout il y a Jean Santerre et puis Richard Cœur de Lion. Or, que fait Aliénor? Elle les pousse à s'insurger contre leur père, Martin Aurel, et même à s'allier avec Philippe Auguste, le roi de France.
Voilà, c'est toute la complexité de cette famille aussi. C'est une famille d'atrides, une famille où la colère ou la haine de l'un pour l'autre fait presque partie intégrante de leur nature. C'est comme ça que les gens de l'époque l'ont vécu. On les traitait presque d'une race diabolique. Et pour se justifier, Richard Cœur de Lion disait « Nous descendons du diable, nous reviendrons au diable » et racontait l'histoire de Mélusine, c'est-à-dire que leur ancêtre était une fée très séduisante, très belle, mais qui un jour disparaît parce que son mari l'oblige à rester pendant la messe à la consécration. Elle ne veut pas, parce qu'elle ne supporte pas l'Eucharistie. Donc elle s'évanouit dans les airs et elle vient de temps en temps consoler ses enfants. Donc vous voyez, ils descendent d'une diablesse. C'est ce que tout le monde croyait à l'époque. Alors ils ont su très astucieusement jouer de cela pour se présenter comme une famille terrifiante dans leur lutte contre les Irlandais, contre le roi de France, contre l'aristocratie locale. Vous voyez, c'était très ambigu.
Il y avait un problème de succession aussi, Martin Aurel. L'aîné, après la mort de Geoffroy, l'aîné c'était Richard, le futur Richard Cœur de Lion, mais son père, Henri II, voulait que ce soit Jean Sans Terre. Alors, il y avait d'un côté Henri II qui soutenait Jean Sans Terre, Aliénor d'Aquitaine qui soutenait le futur Richard Cœur de Lion, et tout ça en obtenant le soutien, évidemment, de quelqu'un qui se frotte les mains, c'est le roi de France, de l'autre côté de la Manche, hein, c'est Philippe Auguste qui, évidemment, entretient toutes ces discordes. Cela dit, ces discordes, ces complots des fils contre leur père, ça va entraîner l'enfermement, c'est une tragédie, l'enfermement d'Aliénor d'Aquitaine. Pendant 15 ans, Henri II va l'enfermer dans un couvent.
Oui, dépend. Elle a changé de lieu, puis à la fin, à la mort de son premier fils, enfin de son deuxième, Henri le Jeune, sur son lit de mort, Henri a demandé à son père de libérer Aliénor. Entre-temps, il y a eu le meurtre de Thomas Becket dans la cathédrale en 1170 à Canterbury. Donc Henri II commence à se remettre en cause un peu et il la libère donc, mais elle est sous surveillance bien sûr, elle ne peut pas se déplacer.
Alors elle va vraiment être libérée en 1189, donc après 15 ans d'enfermement, par son fils qui devient roi d'Angleterre et du royaume des Plantagenets, Richard Cœur de Lion, et elle va continuer, elle a 67 ans quand elle sort de sa prison, et elle va continuer encore à gouverner, à régenter le royaume des Plantagenets, surtout quand Richard part en croisade, dont il va revenir, on le sait, beaucoup plus tard, parce qu'il a été emprisonné en Autriche. Et elle va même, avec Jean Sans Terre, elle va essayer jusqu'au bout, jusqu'à sa mort à 82 ans, d'empêcher l'éclatement de cet empire des Plantagenets.
Absolument, elle va se battre. Oui, dans la société médiévale, la femme, quand elle est jeune fille, quand elle n'est pas mariée, elle ne compte pas du tout, elle n'a aucune surface sociale. Quand elle est mariée, si elle a un ascendant sur son mari, et c'était le cas d'Aliénor, elle peut participer au pouvoir. Quand elle est veuve, alors là, elle a tout, surtout si ses enfants sont mineurs ou partis en croisade. Pour Aliénor d'Aquitaine, nous conservons 80 chartes, 80 actes de donation, donc juridiques, hein, et la moitié de ces 80 actes concernent juste la vingtaine d'années où elle est restée veuve. Vous voyez, c'est très significatif comme chiffre. Et effectivement, elle a dû se battre contre son fils Jean Sans Terre, qui a profité du départ précipité de la troisième croisade de Philippe Auguste, prétextant une maladie, alors que Richard était en train de se battre pour essayer de récupérer Jérusalem contre Saladin. Elle a dû se battre contre Jean Sans Terre, qui était allié de Philippe Auguste pour récupérer la couronne. Et surtout, après, quand Richard rentre, il est en captivité en Allemagne et Aliénor doit trouver tous les fonds pour payer la rançon.
Mais c'est elle qui va payer la rançon de son fils, enfin, qui était une rançon énorme, je crois que c'était 2 ans du revenu de l'Angleterre, enfin du royaume. Elle va avoir une fin de vie assez triste, elle va se retirer à Fontevraud, en Anjou, c'est là d'ailleurs où elle meurt à 82 ans, et où elle est enterrée auprès de Henri II, auprès de Richard Cœur de Lion, deux rois d'Angleterre enterrés en France. C'est assez extraordinaire.
Oui, il y a aussi Jean Sans Terre, qui était roi... Il y avait Isabelle d'Angoulême qui avait été reine d'Angleterre, qui est aussi enterrée là, avec Richard Cœur de Lion, effectivement. Une autre de ses filles, Jeanne d'Angleterre, qui avait été reine de Sicile et puis comtesse de Toulouse. Donc on les trouve là et on a la chance de conserver ce superbe gisant polychrome sur tuffeau ou sur bois, ça dépend de chacun de ces gisants, parce que vous savez qu'au XIXe siècle, au moment de très bonnes relations avec l'Angleterre, l'entente cordiale, la France avait décidé de les rapatrier, enfin rapatrier rien du tout, mais de les redonner, de les donner pour la première fois aux Anglais. Et heureusement, il y a eu des comités de sauvegarde du patrimoine local qui se sont formés et on a arrêté donc le cortège qui partait avec ces gisants. Donc on peut les admirer dans ce monastère superbe qui garde le souvenir d'Aliénor aussi.
En fait, ils étaient très français, ces rois et cette reine d'Angleterre qui était Aliénor, Henri II et Aliénor.
Absolument.
Et Richard. Ils parlaient français d'ailleurs.
Ils parlaient français, puis aussi ils étaient quand même, quelque chose qu'on n'a pas dit, ils étaient vassaux. les hommes du roi de France. On voit toujours ce grand empire plantagenet à côté du domaine du roi de France, très étriqué, juste l'île de France. Mais la vérité, c'est qu'il devait prêter l'hommage à Louis VII, à Philippe Auguste. Et ça, c'est quand même quelque chose de très lourd pour ces hommes. C'est humiliant. Il faut se mettre à genoux, il faut mettre ses mains dans les mains de son seigneur. Donc, ils restaient français, oui, et ils restaient sujets pour leurs territoires continentaux du roi de France. Mais la langue aussi, l'anglo-saxon, c'était la langue de ceux qui avaient été envahis par les Français. Leur langue, celle de toute l'aristocratie et de la cour anglaise, c'était le français.
En tout cas, Martin Aurel, l'empire des Plantagenets ne va pas survivre à Aliénor d'Aquitaine. Pratiquement, il disparaît. Il aura duré très peu de temps, puisque l'Angleterre va perdre presque toutes ses possessions françaises. Il y aura ensuite, plus tard, une guerre, d'ailleurs la guerre de Cent Ans, hein, qui est au fond inscrite déjà absolument un peu dans ce qui s'est passé à l'époque d'Aliénor et de Henri II. Merci en tout cas, Martin Aurel, nous a rappelé l'histoire de cette femme étonnante. Aliénor d'Aquitaine, que l'on retrouve aussi dans votre livre « L'Empire des Plantagenets », hein, ça c'est sur l'ensemble de cet empire, et un livre qui vient d'être publié chez Perrin. À lire également une biographie d'Aliénor d'Aquitaine de Philippe Delorme, édité chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits de « Un lion en hiver » d'Anthony Harvey, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Daligo, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.